sauver la CLR. Les élus du Congrès examinent depuis ce matin une loi du pays pour sortir la caisse locale de retraite des graves difficultés structurelles qu'elle rencontre. Perturbation sur les télécoms sur la partie nord de la Calédonie. Une voiture a percuté hier soir un poteau téléphonique. Le CHT continue de s'organiser pour faire face à la pénurie de soignants. Plusieurs pistes sont évoquées, dont un partenariat avec les universités métropolitaines. En métropole, un homme tente de mettre le feu à la mairie d'Angoulême. Il a été neutralisé par les policiers municipaux qui ont fait usage de leurs armes. Nouvelle tension commerciale entre la Chine et l'Union européenne. Pékin réplique à la décision de Bruxelles de taxer les voitures électriques fabriquées en Chine. Dans la page sport, vous entendrez la rugbyman calédonienne Yolen Niengo. Déçue après les JO, elle annonce vouloir faire une pause dans le rugby. Et puis la suite des portraits des athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux paralympiques. Ce midi, Pierre Fairbank, qui va participer à ses 7e Olympiades. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Ils ont choisi, contre vents et marées, de ne pas baisser les bras, de faire face et malgré les difficultés de poursuivre leur activité. Ils sont chefs d'entreprise, commerçants et viendront expliquer leur situation et les défis auxquels ils font face pour se relancer après avoir subi de plein fouet les émeutes du 13 mai. Ce sera dans les Jeudis de l'économie, juste à la fin de les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, à la fin de ce journal. Nous serons en compagnie de Christophe Nourry, le patron de la Maison Nourry à Apogoty, de Jean-Pierre Debien, patron de l'Agachon à Ducos, et de Laurent Jandot, le directeur général du groupe Jandot. Les Jeudis de l'économie à retrouver donc dès la fin de cette édition. L'âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires va passer de 60 à 62 ans. C'est l'un des textes adoptés quasiment sans débat ce matin par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui examine la deuxième partie des mesures en faveur de la caisse locale de retraite, Gilles Ménage.
Cet acte 2 des mesures en faveur de la CLR était évidemment très attendu car il comporte un grand nombre de mesures destiné à compenser le déficit structurel de la caisse. La population calédonienne vieillit et le ratio entre les cotisants et les retraités qui permet la sauvegarde du système par répartition s'est fortement dégradé ces dernières années. Après le premier train de mesures d'urgence adopté le 8 août dernier qui concernait la trésorerie de la CLR avec, on le rappelle, une augmentation des cotisations des actifs et une nouvelle minoration des pensions, ces mesures votées à contre-cœur selon les élus s'accompagne d'une aide de l'État qui permet le règlement des pensions. Mais l'acte 2, adopté ce matin à l'unanimité, voit plus loin, avec notamment le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Il était prévu d'appliquer cette mesure progressivement jusqu'en 2030, mais un amendement qui a fait l'objet d'un consensus politique va accélérer la cadence. Et c'est donc dès 2028 que cette mesure sera entièrement applicable. La limite d'âge d'exercice d'activité pour les fonctionnaires a également été repoussée de 65 à 67 ans. Des mesures nécessaires selon l'ensemble des groupes politiques, mais pour le membre du gouvernement en charge de la fonction publique, Vaïmo Amouliava, que je vous propose d'écouter, il va falloir aller plus loin et sur le long terme.
Vous voyez bien que nous sommes dans une course de fond. Nous ne sommes pas dans une course de vitesse où on a un claquement de doigts d'un point A à un point B, on a réglé la situation. Mais non. Et évidemment, une réforme de fond doit être menée. Le code des pensions doit être revisité. Nos modalités de recrutement doivent être revisitées. J'ai envie de parler aussi des salaires, etc. doit être revisité. La cherté de la vie doit être revisitée. Tout doit être revisité. Tout.
Parmi les mesures adoptées dans cet acte 2, l'augmentation des recettes par l'intégration des contractuels ou encore la suppression des concours pour les catégories C. L'objectif est évidemment de pérenniser les recettes de la CLR, mais il faudrait aussi gérer une contradiction avec les efforts demandés par l'État en matière de réduction des dépenses publiques. Mais il s'agit là d'un autre débat. En direct du Congrès, Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu.
Et le Congrès examinera aussi aujourd'hui la décision modificative numéro 4 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie pour 2024, mais aussi le projet de délibération sur le sauvetage des Nercals. Il comprend notamment une augmentation des tarifs de l'électricité qui interviendra par paliers successifs jusqu'au 1er octobre 2026.
Radio Rythme Bleu, opinion.
La réponse à notre question d'hier, d'abord 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent normal de sanctionner sévèrement les élus qui tiennent les propos injurieux dans l'hémicycle, comme ce fut le cas mardi au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont que 9% à trouver que ce n'est pas normal. Notre question du jour, êtes-vous irrité par les prises de position de pseudo-experts internationaux qui interviennent dans le dossier calédonien ? Si cela vous irrite, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Encore un mot de l'actualité institutionnelle. Le conseil municipal de Dumbé est convoqué ce soir à 17h30 sous la présidence de Johan Lecourieux. À l'ordre du jour, notamment la décision modificative numéro 1 du budget 2024 de la ville. Les conseillers doivent également habiliter le maire à contracter auprès de la BNC et attribuer des subventions à diverses associations et organismes. Lors de ce conseil, un point de situation sera fait sur les conséquences pour la commune des exactions commises depuis le 13 mai. Il est 11h36. On va faire une première pause dans ce journal avant de voir ce qui fait le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous savez que vous devez faire contrôler ou changer les pneus de votre véhicule de marque premium, mais savez-vous que Prestige Motors est aussi un service minute de montage de pneumatiques ? Un service première classe, rapide, avec de nombreuses références disponibles et sans rendez-vous dédié à tous les véhicules premium. Vous méritez le meilleur, vos pneus aussi. Prestige Motors, au 6e kilomètre. Téléphone 44 30 00.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Depuis hier, la zone du Grand Nord est privée d'internet et de téléphone. Ces perturbations font suite à un accident de la circulation. Hier, vers 17h, une voiture a en effet percuté un poteau téléphonique au niveau de Carambé, sur la route entre Koumac et Kaalagomène. 6 communes sont concernées par ces perturbations, Koumac, Ouégua, Bélep, Poum, Pouébo et Kaalagomène. Écoutez Olivier Amat, il est directeur des télécommunications de l'OPT.
L'impact, c'est que le réseau aérien en fibre optique entre Kaalagomène et Koumac a été touché. On a 4 portées de câbles fibre optique qui sont à réparer. Tous nos réseaux ne sont pas encore enfouis, puisque c'est très long à mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire. Et sur cette portion, le réseau est encore en aérien. D'où voilà, l'impact important. Aujourd'hui, on a quelques circuits qui passent par faisceaux hertziens en secours, mais on ne peut pas passer autant de capacité que sur la fibre, d'où ce fort impact. Tous les réseaux de forte capacité qui passent par fibre optique, donc aujourd'hui les réseaux mobiles, les réseaux internet évidemment, tous nos abonnés qui sont connectés à la fibre optique, les seuls clients qui peuvent encore communiquer sont les clients du réseau fixe.
Et depuis ce matin, des techniciens sont sur place pour remplacer le poteau endommagé et les câbles de fibre optique. Le réseau devrait revenir peu à peu dans les 6 communes touchées. La crise insurrectionnelle va entraîner une crise sanitaire. La situation, on le sait, s'annonce tendue au cours des prochains mois en raison d'une pénurie de soignants, Nicolas Legrand.
Oui, les violences ont en effet entraîné des départs de soignants effrénés, pour ne pas dire mis un coup d'arrêt au recrutement. Le CHN, par exemple, est déjà en situation critique avec des dispensaires sans médecins dans le Nord et une offre de soins qui devient limitée. Le Medipôle, lui, se prépare à des mois difficiles. Écoutez le docteur Mathieu Séry.
La situation sanitaire dans les prochains mois va se tendre avec effectivement une réduction des soignants, donc une offre sanitaire qui va forcément être diminuée. Il y a des services qui sont plus touchés que d'autres. Les urgences, c'est un service qui est en tension parce qu'ils vont perdre un tiers de leurs effectifs. Ça va poser vraiment des problèmes à très court et moyen terme pour la prise en charge des urgences extra-hospitalières, c'est-à-dire le SAMU, et en particulier aller chercher les malades qui sont loin du CHT. Ensuite, il y a quelques services qui vont se retrouver en tension. On peut parler de la pneumologie où il y a quasiment la disparition de l'ensemble des praticiens du service parce que il y a un départ de 3 pneumologues sur l'ophtalmo où ils étaient à 4, on se retrouvait seulement à 1 médecin. Puis dans d'autres services, alors qu'il y a le nombre de médecins, il va manquer des infirmiers un peu spécialisés. C'est le cas par exemple de la réanimation où il y a un nombre suffisant de médecins, mais il ne va pas y avoir assez d'infirmiers pour maintenir tous les lits ouverts. Donc oui, on va avoir des difficultés à court terme. Ça va être des mois difficiles jusqu'à la fin de l'année.
Et face à ce constat, les professionnels de santé du territoire s'organisent. Ils ont été reçus par le haut-commissaire Louis Lefranc au début du mois. Trois pistes ont été évoquées pour pallier l'absence de médecins. Et depuis, le CHT travaille à leur mise en œuvre. On retrouve le docteur Mathieu Séry, médecin anesthésiste.
Les trois solutions, c'est localement, se réorganiser, être capable de faire avec les gens qui sont sur le territoire, repenser au schéma de soins, que ce soit les urgences ou les schémas chroniques, pour essayer de fournir le meilleur soin à la population, entre tous les gens qui le souhaitent, que ce soit le secteur libéral ou le secteur public, et que ce soit le nord ou le sud. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est essayer de continuer à attirer des gens et continuer à faire nos démarches vers la métropole, et en particulier les associations avec les universités. On a un grand passif avec l'université de Bordeaux, de coopération, donc il faut continuer à miser là-dessus. Et puis, de façon très transitoire, on peut faire appel, et ça a été le cas, à la réserve sanitaire pour des spécialités bien précises, pour venir combler pendant quelques semaines un besoin critique.
Et une convention est en cours de préparation concernant la réserve sanitaire. Il s'agit d'une solution coûteuse et aucune date de venue de cette réserve sanitaire nationale n'est pour le moment arrêtée.
Et le 13 mai a été aussi un choc pour bon nombre de Calédoniens. Certains souffrent d'ailleurs aujourd'hui de stress post-traumatique et les psychologues voient arriver de nouveaux patients dans leur cabinet. C'est ce que nous a dit ce matin le docteur Grégoire Thibouville, psychologue clinicien.
On a effectivement une hausse progressive, j'ai envie de dire, qui est liée principalement à la post-sidération. Donc effectivement, on va avoir de nouveaux patients qui vont venir dans nos cabinets. Ils vont principalement interroger, on va dire, le retour à la normale, on va dire. Ils sont passés par certains, en tout cas, par des phases de troubles anxieux-dépressifs très importants. Donc du coup, il faut se remobiliser. Il faut se remobiliser pour ses enfants, pour le travail, pour certains. Donc il y a beaucoup de choses, des fois, à remettre un peu en route. Et l'accompagnement permet de rebooster un peu certains d'entre eux. Ces émotions, principalement, on retrouve colère et tristesse, mais on va retrouver aussi chez certains une capacité un petit peu d'être dans le déni, c'est-à-dire le refus de voir un peu la réalité. C'est une manière de se préserver des choses qui ne sont pas agréables. Donc c'est vrai que ces émotions, il faut pouvoir les exprimer, dans la mesure du possible, je dirais, dans son environnement proche, mais je dirais de manière adaptée. Et si on n'y arrive pas, l'idéal, c'est de se faire accompagner.
Grégoire Thibouville s'attend à ce que le pic de consultation arrive dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
On craint toujours les répercussions, souvent quelques semaines, quelques mois après, surtout quand la précarité sociale et économique va s'installer. Donc on va avoir effectivement des tensions inhérentes aux difficultés du quotidien qui vont amplifier déjà les fragilités existantes dans certains foyers. On commence à avoir des patients qui effectivement consultent en exprimant la grande angoisse de ne pas pouvoir boucler la fin de mois, de ne pas avoir de perspective. Donc effectivement, on va avoir de plus en plus de Calédoniens qui vont se retrouver dans cette configuration-là. On va avoir différents types de réactions. C'est vrai qu'en fonction de nos ressources, de notre parcours de vie, notre manière de vivre les événements, on va avoir des réactions, très différentes. Mais concrètement, on va avoir le contre-coup et on peut constater qu'il y a quand même un état plutôt mélancolique pour une grande part des Calédoniens.
Grégoire Thibouville, psychologue clinicien, qui était ce matin notre invité à 7h30, interview à retrouver sur notre site internet. Il conseille de parler lorsqu'on rencontre des difficultés. Vous pouvez consulter un psychologue ou dans un premier temps appeler SOS Écoute au 05 30 30, le 05 30 30.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h43.
Du riz, des nouilles instantanées ou encore des boîtes de conserve vendues à très bas prix. L'épicerie solidaire de la société Saint-Vincent-de-Paul au Mont-d'Or fonctionne de nouveau et elle sera désormais ouverte tous les jeudis matins à compter d'aujourd'hui, Charlotte Coulson.
Un service qui n'est pas ouvert à tout le monde. Pour acheter les produits alimentaires proposés par l'association, il faut présenter une attestation de chômage ou avoir reçu au préalable une carte d'accès délivrée par le CCAS de la commune. C'est ce qu'explique Dominique Bégaud, directrice du CCAS de la ville de Mont-d'Or.
Alors en fait, la nouveauté avec cette réouverture, c'est qu'on a vu avec Saint-Vincent-de-Paul que du fait de la crise, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi et qui ne sont pas détenteurs de l'aide médicale, qui étaient les critères éligibles auparavant. Donc on a travaillé avec l'association pour faire des cartes d'accès qui émanent du CCAS. Donc sur les critères sociaux, sur proposition du travailleur social du CCAS, on pourra délivrer une carte d'accès aux personnes pour qu'elles puissent aller faire leurs courses. Je rappelle que ce sont des produits qui sont vendus à prix coûtant dans cette épicerie solidaire. Saint-Vincent-de-Paul achète, mais ne fait pas de marge bénéficiaire dessus.
Et la clientèle était timide à l'épicerie ce matin. Pourtant, depuis la reprise des permanences du CCAS le 28 mai, près de 50% des demandeurs d'aide sont nouveaux, soit de nouvelles personnes impactées par la crise qui étaient avant inconnues des services. Sur place ce matin, une dame venue spécialement de Ploum pour enflouer son frigidaire. Pour elle, la solidarité est plus que jamais nécessaire.
Moi, j'ai entendu l'annonce à la radio disant qu'une ouverture de l'épicerie solidaire d'ici, alors je suis passée voir ce qu'il en est. depuis le mois de mai, là, c'était fermé, alors on m'y a pas curiosité, puis aussi pour avoir un aperçu. Oui, c'est venu exprès de plomb, j'ai pris la navette, j'ai attendu presque une heure pour venir jusqu'ici. Oui, j'ai acheté de la nourriture pour remplir un peu le placard. Comme c'est vide déjà, ça peut aller pour le portefeuille. Bah, tout le monde maintenant est à la recherche de solidaires hein, pour pouvoir s'en sortir de la crise pour tout le monde.
Et l'épicerie solidaire de la société Saint-Vincent-de-Paul au Mont-d'Or, qui était ouverte avant le mois de mai 3 matinées par semaine, reprend doucement en accueillant les bénéficiaires de 8h à midi, les jeudis pour l'instant.
Une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve dans un petit instant pour évoquer l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Information, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse rrb@rrb.nc. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Jean-François Bodin.
On va commencer par l'actualité en métropole et le pire a été évité à Angoulême. Un homme arrivé en voiture s'est introduit dans la mairie, visiblement très agité. Il a déversé de l'essence dans les bureaux des élus avant de mettre le feu, ce qui a provoqué une certaine panique, a expliqué le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond.
Je vous l'annonce, nous prévoyons, nous, de l'augmenter de 30 milliards d'euros pour le passer donc à 522 milliards d'euros.
Alors on va tout de suite retrouver le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond.
À côté du bureau des élus, nous avons deux assistantes. Une d'entre elles sort de son bureau, voit l'individu, s'adresse à lui, lui demandant qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il fait là. Celui-ci ne daigne lui accorder une quelconque importance ou lui adresser un regard noir et se met à mettre de l'essence donc dans les locaux, y compris dans les bureaux des assistantes, y compris en partie sur elle.
Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Les dégâts sont limités car les pompiers sont intervenus rapidement. Et la police municipale aussi qui a neutralisé l'homme qui a été blessé par balle. Mais ses jours ne sont pas en danger. Autre incendie à Nîmes, celui-là, un incendie probablement d'origine criminelle dans un magasin qui jouxte un nouveau poste de la police. C'est évidemment ce poste qui était évidemment la cible. Écoutez le préfet du Gard, Jérôme Bonnet.
Si cela relève d'une action volontaire, bien évidemment, c'est une action qui est extrêmement condamnable et qui, en tout état de cause, ne ferait pas reculer l'État sur sa volonté d'être présent dans la répression. Depuis un an, c'est plus de 400 interpellations qui ont eu lieu dans les quartiers nîmois, plus d'une centaine de personnes qui ont été écrouées. Les policiers sont présents 24 heures sur 24, donc le sujet est surtout celui de la sécurisation permanente du quartier et je peux rendre hommage aux policiers, ils ne peuvent pas tout, mais ils sont présents 24 heures sur 24.
La police est en effet très présente dans le quartier dans lequel se sont passés les faits, connu pour être le théâtre de nombreux trafics de drogue. En bref, les obsèques d'Alain Delon seront célébrées dans la nuit de samedi à dimanche prochain pour nous. Elles se dérouleront à Douchy, dans le Loiret, dans la propriété de l'acteur, dans la stricte intimité familiale. Alain Delon sera d'ailleurs enterré sur sa propriété, dans la chapelle qu'il a fait construire à côté des tombes de la cinquantaine de chiens qui ont accompagné son existence. À quoi va ressembler le budget 2025 de la France ? Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal souhaite un gel des dépenses publiques, mais la ligne définitive sera mise en place par son successeur à Matignon. Et si le poste revient au nouveau Front populaire, pas question de respecter le gel des dépenses, a affirmé le patron du Parti communiste Fabien Roussel.
Je vous l'annonce, nous prévoyons, nous, de l'augmenter de 30 milliards d'euros, pour le passer donc à 522 milliards d'euros, et pouvoir ainsi investir immédiatement dans l'augmentation des salaires des agents de la fonction publique, dans des services publics importants, dans la gratuité de l'école publique, notamment pour cette rentrée, en allant notamment mettre en place un ISF climatique et aussi en allant taxer les dividendes des grandes entreprises.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. L'Union européenne et la Chine sont entrés dans un nouveau bras de fer diplomatico-commercial. La Chine vient d'ouvrir une enquête sur des pratiques commerciales jugées déloyales par Pékin concernant certains produits laitiers en provenance de l'Union européenne. Il s'agit de représailles à la mise en place par Bruxelles d'une taxe sur les voitures électriques fabriquées en Chine et vendues en Europe. La situation a donc tendance à se tendre. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
La situation se tend et même si les négociations en coulisses vont encore durer plusieurs mois, la Chine montre les muscles et elle réfute les accusations de subventions accordées à ses constructeurs automobiles nationaux, alors que la Commission européenne avait lancé une enquête en octobre dernier parce qu'elle juge le prix des voitures électriques chinoises qui arrivent en Europe artificiellement bas et que cela fausse la concurrence. Jusqu'ici, les véhicules fabriqués dans des usines chinoises étaient taxés à hauteur de 10%. Désormais, la surtaxe décidée par Bruxelles pourrait ajouter jusqu'à 36% supplémentaires des droits de douane qui doivent s'appliquer à partir de fin octobre pendant 5 ans. Pékin a donc réagi. Aujourd'hui, ce sont les produits laitiers, fromage frais, lait caillé, le fromage bleu, ainsi que certaines crèmes, a précisé le ministère du Commerce chinois. Mais avant, il y avait déjà eu 2 enquêtes sur les importations de porc et les spiritueux, comme le cognac, tout sauf un hasard, puisque c'est notamment la France qui avait impulsé cette enquête de Bruxelles sur les voitures.
11h51, la dernière pause dans ce journal avant l'actualité sportive. Vous entendrez la rugbyman calédonienne Yolaine Niengo déçue après les JO. Et le portrait de Pierre Ferbank, c'est l'un des 3 athlètes qualifiés pour les Jeux paralympiques. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Si vous êtes prêt à faire plaisir à toute votre famille sur 3 générations, alors vous êtes prêt à profiter des journées plaisir Gémeaux. Jusqu'au 23 août, moins 30% pour 3 articles achetés, moins 40% pour 4 et jusqu'à moins 50% pour l'achat de 5 articles ou plus.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Offre valable sur une sélection d'articles textiles signalés par une étiquette rouge, voire conditions en magasin.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Et avant de retrouver Jean-François Baudin, on fait un clin d'œil à notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport est quelques jours après la fin des Jeux Olympiques. La Calédonienne Yolaine Niengo nous a donc accordé un entretien exclusif. Elle revient notamment sur la défaite en quart de finale du tournoi olympique de rugby à 7, Léo Fichou.
La joueuse originaire de Marais se remet peu à peu de ce choc. L'équipe de France, vice-championne olympique en titre, voulait décrocher l'or à Paris. Mais la route des Françaises s'est arrêtée dès les quarts de finale contre le Canada après une défaite 19-14. Cette défaite a été vécue comme un véritable traumatisme par toute l'équipe.
On voulait absolument l'or. Malheureusement, on rentre sans rien. Pour nous, c'est un trauma. Pour nous, c'est un traumatisme de malade. Et quand tu sais tout le travail que tu as fait pendant ces 3 dernières années, on avait comme objectif l'or. Et de partir sans rien, ben ça nous fait mal. Ça nous ferait vraiment mal. Clairement, moi, je sais que ce que je disais à ma famille, j'avais le cœur brisé. J'avais le cœur brisé après ces quarts-là. Ça a été un moment très, très, très dur à vivre. J'ai pris d'abord un temps pour moi. J'ai pris une bonne semaine avant de recontacter ma famille, de recontacter mes proches et tout pour être avec tout le monde. Mais ouais, je me suis un peu isolée une semaine et ça m'a permis aussi de relativiser par rapport à tout ça. Et maintenant, ça va beaucoup mieux.
Plus de 3 semaines après leur défaite, Yolaine Niengo est de retour à la salle de sport, mais pour le plaisir. Elle n'a plus aucun objectif dans le rugby. Le staff de l'équipe de France de rugby à 7 a changé et ne compte pas sur la Calédonienne pour les futures échéances.
C'est fini pour moi l'équipe de France. Il y a un nouveau staff qui arrive, donc ils ont pas mal fait de changements. Donc je ne fais pas forcément partie du rugby. Le rugby est en suspens. D'apprendre que je suis pas reconduite, ça m'a un peu mis un coup. Là, en ce moment, j'ai pas forcément envie de reprendre le rugby. Pour l'instant, le rugby, c'est un peu en suspens.
Malgré la défaite, Yolaine Niengo dit garder une bonne expérience de ces Jeux Olympiques. Elle qui avait manqué ceux de Tokyo il y a 3 ans, alors qu'elle faisait partie des réservistes.
L'ambiance du stade, tout était incroyable. Après, là, maintenant, à tout ça, malgré la défaite, je garde une très, très bonne expérience de ces Jeux. C'était incroyable. Le public a été à notre dos, ils nous ont soutenus, mais j'ai jamais vécu un moment incroyable. C'est vraiment énorme, énorme. Et derrière, je sais que j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont vraiment touchée. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu représenter la Calédonie pendant ces Jeux.
Yolaine Niengo se projette désormais vers l'avenir et espère rentrer définitivement l'an prochain en Nouvelle-Calédonie.
Du tennis, c'est le top départ ce soir du championnat de France à Blois avec trois Calédoniens engagés. Grégoire Thiollier est engagé dans le tableau des quatrièmes séries. Il ouvre le bal ce soir à 20h, heure de Nouméa, en 16e de finale face à Arnaud Joulin, mieux classé que lui. Rodolphe Longjaret et Mélodie Dalle entreront dans la compétition demain en 3e série. Et puis en football, la sélection A de Nouvelle-Calédonie lancera sa campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
La rencontre est prévue le jeudi 10 octobre à 15h à Suva, la capitale des Fidji. 4 jours plus tard, les joueurs de Johan Zidaner affronteront les îles Salomon. Ce sera le lundi 14 octobre à 14h avant de terminer la phase de groupe face aux Fidji le jeudi 17 octobre à 14h. Les rencontres viennent donc de tomber il y a quelques minutes.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux paralympiques avec le CTOS, l'Agence nationale du sport et la BNC.
Voilà, et on continue de découvrir les trois athlètes calédoniens en e-sport qui sont donc sélectionnés pour les Jeux paralympiques qui débutent la semaine prochaine. Le plus connu et le plus emblématique d'entre eux est évidemment Pierre Fairbanks. L'athlète fauteuil détient déjà 10 médailles paralympiques, une en or, 3 en argent et 5 en bronze. Ça fait 9 médailles, pardon. Il ne pensait jamais atteindre ce niveau ni participer à ces Jeux 2024. À 53 ans, ce devrait être ses derniers. En tout cas, il ne pensait pas avoir une telle longévité sportive.
Pas du tout. J'avais commencé par les, bon, comme tout sportif, championnat de Calédonie, championnat de France, ensuite première sélection en championnat du monde, et ensuite les Jeux à Sydney 2000, donc je pensais avoir tout fait. Ensuite, après les Jeux de Sydney, eh ben voilà, je me suis dit pourquoi pas Athènes, le berceau des Jeux, c'est quand même quelque chose à vivre. Et puis ensuite... je voulais arrêter et j'ai repris 3 mois après, jusque pour les Jeux de Pékin, parce que je me suis dit en Chine, ça va être magistral. Et puis voilà, à chaque fois, à Londres, je me dis, le public, c'est un public génial, donc il faut y être. Et après Rio, je ne veux pas mourir avant d'avoir été au Brésil. Donc du coup, voilà, à chaque fois, il y a quelque chose. Et là, aux Jeux de Tokyo, bah, je pensais m'arrêter. Et je fais encore une médaille, donc ça m'a aussi un peu motivé. Et je me dis qu'avec la Covid, ça a été décalé d'une année. Donc du coup, il ne me restait que 3 ans pour arriver aux Jeux de Paris. Je me dis, allez, 3 ans, c'est jouable. Et puis finir à Paris, ça serait beau, quoi.
Pierre Fairbanks va donc participer à ses 7e Olympiades et il est prêt.
Ça y est, le compte à rebours a commencé. Tic-tac, tic-tac. Et la petite horloge commence à titiller, donc bien sûr, envie de bien faire, envie de gagner et puis envie de vivre ces moments-là. C'est des moments incroyables, donc c'est pour ça que je motive tout le monde à faire du sport, parce qu'on commence toujours par du loisir et puis en fin de compte, si on se prend au jeu et qu'on arrive à se faire plaisir, et comme je le fais depuis tant d'années, eh ben, on peut vraiment performer à plus haut niveau et, voilà, et vivre des moments exceptionnel.
Pierre Fairbanks est une légende dans le monde du handisport. Il a donné beaucoup de temps à son sport, sans oublier pour autant de vivre ses passions et son métier.
Des passions comme tout le monde. Hein. J'aime un peu la musique, j'aime le jardinage, j'aime me promener, si ça peut être une passion, mais voyager, rencontrer d'autres univers. Mais au niveau professionnel, ça fait 18 ans que je suis éducateur sportif à la province sud. Ce qui est bien dans mon métier, c'est que j'arrive à allier mon sport et le véhiculer et le communiquer à tous les jeunes qui viennent faire du sport au stade. Donc, j'essaie de motiver toutes les personnes qui ont un handicap à faire du sport avec la création de l'école handisport qui est au stade. Et je m'occupe du développement du handisport en province sud et de l'accessibilité aussi pour pouvoir permettre à toute personne qui a un handicap de se déplacer dans tous les endroits provinciaux, voilà, des établissements et autres.
Sa carrière, son métier lui ont permis de faire évoluer le handisport, mais le public calédonien qui a toujours soutenu les sportifs a aussi contribué à changer le regard que l'on peut porter sur les athlètes handisport, estime Pierre Fairbanks.
C'est vrai qu'ils nous ont toujours encouragés depuis le début et le potentiel en Calédonie est énorme. On a, depuis la création de la Ligue en 91, presque 40 médaillés paralympiques. Le handisport en Calédonie a toujours fonctionné, et ça fonctionnait parce que justement, il y a le public, les Calédoniens derrière, il y a les institutions qui nous soutiennent, et on n'aurait pas pu y arriver sans cela. les Calédoniens, ben, à chaque événement, depuis tant d'années maintenant, le regard, je dirais, a changé parce qu'avant, on voyait un sportif handicapé. Maintenant, on voit plus un sportif tout court. Les performances ont progressé et maintenant, on voit plus la performance que le handicap.
Pierre Ferbank, athlète engagé, dont on peut aussi saluer le sourire, la bonne humeur et la joie de vivre. Et si ces Jeux paralympiques devaient être ses derniers, on espère très fort avec lui qu'il ramènera une 10e médaille olympique. Après Vitolio Cavacava hier et Pierre Ferbank aujourd'hui, rendez-vous demain pour entendre le 3e athlète calédonien sélectionné pour ces Jeux paralympiques. Ce sera Félicien Siapo, des portraits qui sont à retrouver sur le site internet du CTOS.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux paralympiques avec le CTOS, l'Agence nationale du sport et la BNC.
Et on va terminer avec un mot de cyclisme et une nouvelle arrivée au sprint cette nuit sur la 5e étape du Tour d'Espagne. Léo Fichu, Wout van Aert s'est fait coiffer sur le poteau à Séville.
Le Belge pensait l'emporter, mais il termine finalement juste derrière Pavel Bittner. Le Tchèque de 21 ans s'est offert sa première victoire sur un grand tour. Le premier Français, lui, Brian Cocquart, termine 4e. Et au classement général de cette Vuelta, Primoz Roglic conserve son maillot rouge de leader avec 8 secondes d'avance sur Joao Almeida et 32 secondes sur Henrik Maas. Le Français, Pavel Sivakov, est 11e à 1 minute et 1 seconde du leader. Ce soir, 6e étape entre Xérès et Jonquera, 185 km et 4 cols au programme, dont une arrivée au sommet.
Il est midi et 2 minutes, c'est la fin de ce journal.